À l'écoute de RFI 21h, ici à Paris, 19h en temps universel. Marion Cazeneuve à mes côtés dans 10 minutes, le décryptage. Vous aborderez cette question. Est-ce que la Cisjordanie est en voie d'annexion? Mais d'abord, c'est le journal. Bonsoir Marion.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, l'espoir d'une paix en Turquie après la dissolution du PKK. La guérilla kurde a annoncé sa dissolution et la fin de la lutte armée. Soulagement pour Ankara, mais également pour le voisin syrien, on va le voir. La Turquie qui pourrait accueillir des pourparlers historiques jeudi entre l'Ukraine et la Russie. Mais pour les Européens, pas question de discuter avec Moscou sans un cessez-le-feu. On sera en Corée du Sud dans ce journal avec le lancement de la campagne pour la présidentielle qui devrait mettre fin à une grave crise politique. Après la destitution de Yoon Suk-yeol. Et puis en France, 2 semaines de débats houleux en perspective sur un texte de loi qui créerait un droit à l'aide à mourir, une question qui transcende les clivages politiques. Une étape historique. La Turquie salue l'annonce de la dissolution du PKK, la guérilla kurde qui l'opposait depuis 4 décennies à Ankara. Quelques semaines après l'appel de son chef, Abdullah Öcalan a déposé les armes. Le Parti des travailleurs du Kurdistan a donc officialisé aujourd'hui sa dissolution et la fin de la lutte armée. Et ce n'est pas qu'une bonne nouvelle pour la Turquie, la Syrie voisine a partagé aussi son soulagement et parle d'un moment charnière pour la région, Abla Junaidi.
Le désarmement du PKK n'est pas encore une réalité. Le processus prendra du temps. Mais pour Assad El-Shibani, le ministre syrien des Affaires étrangères, en visite à Ankara en même temps que son homologue jordanien, la dissolution du groupe actif depuis 4 décennies est un moment historique.
Cette étape représente un moment charnière, non seulement pour la sécurité intérieure de la Turquie, mais aussi pour la stabilité de notre région dans son ensemble. Nous redisons aujourd'hui notre engagement à renforcer la coordination sécuritaire et militaire avec la Turquie et la Jordanie. Cette coopération n'est plus une simple option, c'est une nécessité pressante. Nous travaillons de concert pour affronter les menaces transfrontalières, surveiller les groupes armés, empêcher l'infiltration des extrémistes sur nos 2 territoires.
La stabilisation des frontières est un enjeu de taille pour le gouvernement syrien, d'autant plus que les défis s'accumulent. Négociations complexes avec les forces démocratiques syriennes dans le nord-est, affrontements ethno-confessionnels dans l'ouest et le sud du pays, incursions israéliennes et attaques de cellules de l'État islamique, la Syrie peine à rétablir sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire.
D'ailleurs, aujourd'hui, les nouvelles autorités de Damas ont lancé un avertissement aux Kurdes. Tout retard à leur intégration dans les institutions de l'État risque de prolonger le chaos, affirme le ministre syrien des Affaires étrangères. Les FDS en Syrie ont salué aujourd'hui la dissolution du PKK, mais ils avaient affirmé fin février qu'ils n'étaient pas concernés par l'appel d'Abdullah Öcalan à déposer les armes. En Israël, les cris de joie, de soulagement après la libération d'un otage, l'israélo-américain Edan Alexander, retenu 19 mois dans l'enclave palestinienne de Gaza. Une libération suivie par des centaines de personnes, notamment à Tel Aviv, sur la place dite des otages. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, estime ce soir que cette libération est effective grâce aux pressions militaires de son pays et aux pressions politiques du président américain Donald Trump. Il a d'ailleurs remercié le président américain pour son aide. Donald Trump, qui après l'annonce de cette libération, s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Le début d'une tournée dans le Golfe, il espère y signer des contrats économiques, mais pourrait écourter cette tournée pour se rendre en Turquie jeudi, puisque des pourparlers directs pourraient avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit prêt à y rencontrer son homologue russe. Il souhaite aussi sur place donc la présence de Donald Trump. Mais pour les Européens, il faut que les armes se taisent avant d'envisager tout pour parler. Ils continuent de faire pression sur la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu. C'est ce qu'a martelé tout à l'heure la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaya Kallas.
Donc, pour pouvoir entamer des pourparlers de paix, il faut un cessez-le-feu. Et nous devons également voir que la Russie le souhaite, qu'elle fait preuve de bonne volonté, qu'elle est prête à s'asseoir à la table des négociations et à discuter avec les Ukrainiens. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et nous devons faire pression sur la Russie pour qu'elle souhaite réellement la paix et qu'elle s'assoie à la table des négociations avec l'Ukraine. Nous voulons également voir que la Russie souhaite la paix. Je veux dire par là qu'il faut être deux pour vouloir la paix, mais qu'il suffit d'un seul pour vouloir la guerre. Et ce que nous constatons, c'est que la Russie en veut clairement plus. Cela fait donc déjà plus de 2 mois que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu inconditionnel. La Russie n'a fait que jouer à un jeu et je pense qu'elle continue de le faire aujourd'hui.
La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, en visite à Londres pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Ces derniers ont d'ailleurs menacé de prendre de nouvelles sanctions si la Russie n'acceptait pas de cesser le feu avec l'Ukraine. La Corée du Sud s'apprête à tourner la page. Yoon Suk-yeol, le président destitué après des mois de crise. La campagne présidentielle a commencé officiellement à moins d'un mois du scrutin, ce sera le 3 juin. Et le favori pour remporter cette élection, c'est un candidat de centre-gauche, largement en tête dans les sondages, malgré des ennuis judiciaires. À Séoul, la correspondance de Célio Fioretti.
Ce matin, à Séoul, c'est Lee Jae-myung, chef de file de l'opposition et candidat à l'élection présidentielle, qui marque le lancement de cette campagne. Le leader de centre-gauche du Parti démocrate a organisé un grand meeting dès aujourd'hui en plein centre de Séoul. Donné grand favori dans les sondages avec déjà près de 50% des intentions de vote, celui qui est arrivé second au dernier scrutin présidentiel se voit déjà en tant que 14e président de la République de Corée, bien qu'il soit toujours en procès pour différents scandales de favoritisme lors de son mandat de maire. Face à lui, Kim Moon-soo, ministre du Travail sortant, fidèle de Yoon Suk-yeol, son discours d'extrême droite motive les plus conservateurs qui souhaitent continuer avec une politique similaire à celle de l'ex-président déchu, une figure qui divise même en son propre parti, qui a failli imploser ce week-end à la veille de la campagne. Les deux candidats ont 3 semaines pour convaincre les Sud-Coréens. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans moins de 6 mois et déjà elle provoque de nombreux remous dans la vie politique. L'opposant Tidjane Thiam démissionne de la présidence de son parti, il l'a annoncé ce matin. Il devrait toutefois se faire réélire par le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, lors d'un congrès mercredi. Cette réélection devrait mettre fin à une saga judiciaire qui conteste sa légitimité, notamment sur sa nationalité. Plus d'informations sur notre site internet www.rfi.fr et toute l'actualité africaine sur RFI, c'est dans moins d'une demi-heure dans un nouveau journal de Sylvie Berruet. RFI, 19h07 en temps universel, 21h07 à Paris, en France, l'ouverture des débats sur la fin de vie. Les députés ont commencé à discuter du sujet où 2 textes de loi sont présentés. Le premier, relativement consensuel, doit garantir un meilleur accès aux soins palliatifs. Le deuxième, qui fait bien davantage débat, doit ouvrir un droit à l'aide à mourir. Au gouvernement, c'est la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui défend ce texte. Elle affirme qu'il répond à une forte attente des Français et qu'il encadre très fortement cette aide à mourir.
Nous sommes donc appelés à débattre d'un sujet extrêmement sensible. Un sujet éthique, un sujet médical, un sujet juridique. Un sujet qui appelle de notre part humilité et humanité. Je suis animée par la conviction que le Parlement doit pouvoir débattre en conscience de cette question essentielle. Comment traitons-nous la vie qui prend fin ? Refuser ce débat alors que l'état de notre droit ne répond pas à toutes les situations, c'est laisser celles et ceux qui attendent sans réponse. C'est fermer les yeux devant une souffrance à laquelle seuls et ceux qui le peuvent trouvent une issue en partant à l'étranger. C'est quelque part manquer à notre devoir d'écoute et d'humanité.
La ministre de la Santé française, Catherine Vautrin, les débats sur ce droit à l'aide à mourir doivent durer 2 semaines dans l'hémicycle. En football, le nouveau défi de Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien en fin de cycle au Real Madrid. Il devient le sélectionneur de l'équipe du Brésil. Une tâche ardue pour celui qui a connu les meilleurs clubs d'Europe, puisque la Seleção, 5 étoiles de champion du monde, est en perte de vitesse ces dernières années. Et il faudra vite s'y mettre pour Ancelotti, puisque son premier match, c'est dans moins d'un mois, le 5 juin, Le Brésil rencontre l'Équateur dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et toujours en football, vous l'avez suivi sur notre antenne, le Marocain Achraf Hakimi remporte le prix Marc-Vivien Fouet de RFI et France 24 qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Précisons que l'arrière-droit du Paris Saint-Germain est visé par une accusation de viol pour laquelle il a été mis en examen en 2023. RFI 21h10 à Paris, 19h10 en temps universel. À suivre le décryptage.